voir Louise Touret.
Bonjour et bienvenue dans Être et Savoir, le magazine de l'éducation de France Culture. L'actualité éducative de cette semaine fut dense entre la communication du ministère sur les CPA12, nous y reviendrons, et l'ouverture de la plateforme Parcoursup. Et là, vous pouvez podcaster nos dernières émissions sur l'orientation. Et puis, une nouvelle discipline scolaire. Oui, un nouveau concours d'enseignement, un CAPES informatique ou numérique. Il n'a pas vraiment encore de nom, un concours dont le ministre Jean-Michel Blanquer avait annoncé la mise en place pour 2020, il y a quelques jours, dans les matins de France Culture. Tout le monde doit-il étudier l'informatique ? Le ministère a répondu positivement à cette question. Il faut dire que le sujet était dans les tuyaux depuis longtemps. Rude Grenelle et des informaticiens militaient depuis encore plus longtemps, près de 40 ans, pour l'arrivée de cette nouvelle discipline dans l'éducation nationale. Mais enfin, le sujet fait débat. On va essayer de savoir comment tout cela va s'organiser, qui seront les nouveaux professeurs, par exemple, comment vont-ils être recrutés, et puis surtout, à quoi va ressembler l'informatique scolaire, quelles sont ses ambitions, ses objectifs et sa philosophie. Réponse avec nos invités dans un instant. En fin d'émission, la leçon de choses de Sophie Bobert. Il y a pas mal de choses encore que les femmes n'ont jamais fait, nous raconte la plasticienne Johanna Vasconcelos. Et si vous ne connaissez pas cette artiste, je vous assure, elle vaut le détour. Rendez-vous à 17h52. Je salue sans plus tarder les invités d'Être et Savoir aujourd'hui. Édouard Geffray, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur général des ressources humaines du ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. C'est assez long. Auparavant, vous étiez secrétaire général de la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté. Donc, vous connaissez bien le sujet informatique. Et puis, c'est vous qui allez vous occuper, entre autres, de la mise en place de ce nouveau concours de l'enseignement. On va revenir sur le nom de ce nouveau CAPES, de cette nouvelle discipline scolaire. Avec nous également Gilles Dewec, bonjour.
Bonjour Louise.
Vous êtes informaticien, chercheur à l'INRIA, professeur attaché à l'ENS Paris-Saclay, auteur notamment de « Vivre, aimer, voter en ligne » et autres chroniques numériques aux éditions du Pommier. Ça c'est votre ouvrage publié en 2017. Vous faites partie de la Société française d'informatique qui milite pour l'arrivée de l'informatique comme discipline scolaire, et ce depuis des années.
Oui, depuis des années, même avant que la Société informatique de France existe, il y avait déjà cette revendication ou cette idée que un enseignement de l'informatique à l'école serait utile à toutes et tous les Français.
Voilà, on en parle depuis les années 70. À Lyon, avec nous, Bruno Devauchel, bonjour.
Bonjour.
Merci donc à Claire Vuillot dans nos studios de Lyon de nous permettre de pouvoir vous interviewer à distance. Vous êtes professeur associé à l'université de Poitiers, membre du laboratoire de recherche Techné, auteur notamment d'Éduquer avec le numérique, publié chez ESF en 2017, mais bientôt réédité. Je crois que c'est une question de semaine, donc chez ESF. Vous êtes plus sceptique, on va y revenir sur l'informatique comme discipline scolaire. Et puis au téléphone avec nous, Gérard Berry, bonjour.
Bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. Vous êtes informaticien, professeur au Collège de France, où vous enseignez l'informatique. La chaire s'appelle Algorithmes, Machines et Langage. Et on va revenir sur cette question des algorithmes et du langage. Vous êtes auteur notamment de L'hyperpuissance de l'informatique, publié chez Audi Jacob en 2017. Vous êtes un militant de longue date et un pédagogue de l'informatique. C'est le sens de vos cours au Collège de France. On peut les entendre sur France Culture. Nous, on vous a déjà reçu dans la version précédente de l'émission sur cette question de l'enseignement de l'informatique. Alors, dans votre dernier ouvrage, vous dites qu'en 2012, vous étiez très sceptique sur l'éducation à la française. Vous aviez l'impression que on rentrait à peine dans le 20e siècle. Alors, est-ce que pour vous, avec l'arrivée de l'informatique dans l'école française, informatique pour les élèves de lycée, on entre enfin dans le 21e siècle, Gérard Berry?
Oui, alors, cette phrase-là était en fait de 2008, de ma première leçon inaugurale au Collège de France. Personnellement, je milite depuis longtemps. Le rapport NIPA de 1984, dont j'étais vice-président, posait déjà cette question, disait que l'enseignement en informatique était indispensable. Il en existait un petit qui a été supprimé en 1997, ce qui était quand même une opération extraordinaire, alors que c'était au moment de l'explosion d'Internet. Il y a eu beaucoup de vicissitudes. Il s'est créé un enseignement après énormément de temps, 30 ans après, hein. Il s'est créé un enseignement en 2012 qui s'appelle Informatique et Sciences Numériques, qui va jouer un rôle très important dans la suite, mais qui a été très partiel, avec une formation très inégale des professeurs. Enfin, c'était pas un sujet, ça, c'était pas très reconnu, etc. En 2013, on a fait un rapport de l'Académie des sciences que j'ai coordonné sur le sujet, qui était très très proche de celui de 1983. C'était juste 30 ans d'écart et c'était absolument rien passé, pour être clair. Et le ministère actuel, je suis au conseil scientifique de Jean-Michel Blanquer, le ministère actuel a décidé qu'il fallait changer ça. Il y avait déjà eu un changement sous le ministère de Najat Vallaud-Belkacem avec l'introduction d'un petit peu d'informatique en primaire, mais en pratique c'est pas très vrai. Et au collège, où là c'est plus vrai, en cinquième par exemple, et aussi d'algorithmique dans les programmes de lycée, mais en maths. Donc, il n'y avait pas de discipline informatique, mais il y avait des tentatives d'essayer de raccrocher un peu d'informatique par-ci, par-là. Là, ce qui change, c'est effectivement l'entrée de deux enseignements d'informatique, donc un qui s'appelle bizarrement sciences numériques et technologies en seconde, pour tous les élèves de seconde, ça c'est véritablement nouveau, et l'autre qui est le numérique et sciences informatiques, qui est une spécialité, une des 12 spécialités, du nouveau programme du lycée en première et en terminale. Donc ça, c'est tout à fait nouveau. Et on avait un énorme souci, c'était mais qui va enseigner ça ?
Ah ça, on va y revenir. On va y revenir, oui, voilà. Gérard
Donc,
Berry.
Pour nous, c'est absolument majeur. Je veux dire, le monde informatique en 2008 était en train de devenir visible. La France a choisi de ne pas être un acteur de ce monde. On a choisi qu'on serait majeur dans les industries spatiales, avioniques, nucléaires, etc., et que l'informatique, c'était une mode, c'était un truc qui n'avait pas d'avenir. Bon, on voit que c'est exactement l'inverse à l'heure actuelle. C'est devenu juste l'industrie la plus riche du monde et une des activités les plus fondamentales de toute l'humanité à l'heure actuelle. On a choisi d'en être absent et aussi dans l'enseignement. C'était pas un bon choix, je pense, mais il est toujours temps de changer des choix.
Ça veut dire qu'on ne peut pas exister en tant que science si on n'est pas une discipline scolaire.
En France, alors attention, on sait en quoi sens à l'école. Dans l'université, il y a très très longtemps...
Oui, c'est pour ça que j'ai dit scolaire ouais, à l'école.
Hein. Dans le scolaire, on ne peut pas exister tant que ce n'est pas une discipline. Ça, c'est une loi française presque inéluctable. On peut exister que par raccro. Des professeurs de mathématiques enseignent l'informatique, c'est sûr, mais enfin, leur formation, c'est mathématiques. Ils enseignent l'informatique souvent en mathématiques, même quand ils font beaucoup d'efforts, d'ailleurs. Parce qu'une discipline, ça s'apprend pas à la petite semaine. Ça demande une vraie formation. Et c'est pour ça qu'on milite depuis toujours sur un CAPES qui existe en Tunisie. Il y a une agrégation au Maroc qui est en train de se faire, mais l'enseignement de lycée d'informatique en Tunisie, qui est quand même un enseignement de type français, existe depuis pas mal de temps. Hein. Et il est très important là-bas.
Et j'indique que vous allez raconter cette histoire, enfin ce sera même un cours au Collège de France le 6 février prochain. Merci beaucoup Gérard Berry. Alors, on va voir ce qui fait débat hein, encore aujourd'hui. Déjà, éclairez-moi Édouard Geffray sur le nom de ce concours de l'enseignement, puisque il y a à la fois la science numérique, on parle de science numérique, on parle de science informatique, on parle de technologie. Est-ce que ce CAPES a déjà un nom, lequel ?
Alors, entre nous, on l'appelle CAPES informatique et numérique. Maintenant, si il doit y avoir entre guillemets un petit affinage du nom, ce sera dans le cours des prochaines semaines, puisque quand vous créez un CAPES, en fait, vous avez un groupe de travail avec des experts qui travaillent à la fois sur le programme du concours en question et donc qui, le cas échéant, permet d'affiner le titre exact. Mais enfin, en gros, on est sur un CAPES informatique et numérique.
Alors c'est pour 2020, ça veut dire que c'est assez rapide, en fait.
C'est le prochain concours, donc les étudiants pourront s'inscrire dès la rentrée 2019. En septembre 2019, pour passer le concours en mars-avril 2020.
Est-ce que les écoles de formation des professeurs, les ESPE, disposent déjà de formateurs? Et est-ce que vous êtes en train de former des formateurs pour une toute nouvelle discipline qui n'existait pas, même si il y avait des gens qui, même s'il y avait des militants de cette discipline?
Alors, comme ça a été dit, l'informatique existe, dans l'enseignement universitaire et dans le supérieur depuis des années. Donc j'allais dire le vivier ne pose pas de difficultés. Les SPL évidemment s'adapteront, mais elles s'adapteront du coup pour la rentrée 2020, puisque les étudiants, enfin les professeurs stagiaires rentreront le circuit en septembre 2020 et donc c'est là qu'ils seront formés.
Les ESP, donc les écoles supérieures du professorat et de l'éducation. Être une discipline universitaire et devenir une discipline scolaire, c'est quand même pas du tout la même chose. Est-ce que c'est ça qu'on n'arrive pas, Bruno De Vauchel, à forcément se représenter? C'est cet écart entre l'informatique en tant que science qui existe dans le champ académique et ce que ça peut devenir en tant que discipline scolaire. Et d'ailleurs, vous, c'est un destin que vous critiquez.
Alors oui, je critique effectivement cela, mais pas complètement. Il faut pas, c'est pas tout blanc ou tout noir. Je voudrais, pour aider Gérard Berry d'ailleurs, lui rappeler que ce n'est pas en 1983 mais en 1980 que se pose réellement la question, comme le rappelle Jacques Arsac par rapport au rapport Simon. Jacques Arsac écrit qu'à l'époque il y avait effectivement le souhait de créer un CAPES informatique, parce qu'en fait entre 70 et 80, entre 1970 et 1980, le débat était une discipline spécifique ou intégrer l'informatique dans les disciplines telles que ça se fait en mathématiques, comme il l'a dit tout à l'heure. C'est donc à ce moment-là, Jacques Arsac le rappelle plus tard, et Jacques Arsac est le père, je dirais, de la discipline. Effectivement, ça a eu beaucoup de mal à se mettre en place. Et en fait, ça a eu beaucoup de mal à se mettre en place pour plein de raisons. Tout d'abord, effectivement, il y a eu une opposition à l'intérieur du système éducatif assez générale, et d'ailleurs, Jacques Arsac le montre, avec les hésitations, la section H, etc., etc. Et effectivement, on se pose la question de savoir si, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas laissé passer le train et si la solution, ce n'est pas de reprendre quelque chose qui est, je dirais, très, 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 très ancien et n'a pas été traduit. Peut-être faut-il autre chose. Un concours, ça coûte très cher. Ça coûte très cher, ça on peut demander à notre collègue du ministère, ça a un coût, ça suppose une infrastructure. En plus, il y a la réforme des ESPE qui vont s'appeler les INSPE dans les années à venir, semble-t-il. Quand aura lieu le concours? Quels seront les recrutements? Je pense que là, on s'embarque dans une histoire qui malheureusement risque d'être peu compliquée alors qu'on aurait pu simplifier les choses.
On entend que... il peut y avoir des difficultés d'information, mais pour moi, la question qui se pose, c'est est-ce que une discipline, une nouvelle discipline est nécessaire, à savoir que cette discipline, elle serait enseignée à tous les élèves, dès la seconde. Donc ça veut dire que tout le monde va faire de l'informatique. J'ai quand même passé la parole à Gilles Dewec. Donc on a compris que cette question, elle avait une histoire très très ancienne. Ça remonte même aux années 70. Alors il y a eu beaucoup de gens qui se sont exprimés, mais sur ce problème depuis. Mais si on arrive aujourd'hui, pourquoi est-ce que on doit en faire une discipline en particulier et pas enseigner un peu d'informatique en cours de technologie au collège, en cours de mathématiques au lycée?
La question fondamentale qu'il y a derrière votre question, c'est de savoir si nous voulons enseigner l'informatique à quelques-uns ou si nous voulons enseigner l'informatique à tout le monde.
Par exemple.
Alors, si nous voulons enseigner l'informatique à quelques-uns, ce qui, à mon sens, est une très mauvaise idée, nous pouvons, par exemple, nous limiter à l'enseigner dans l'enseignement supérieur, où nous pouvons nous limiter à l'enseigner dans des filières technologiques ou dans des filières professionnelles. Mais si nous pensons qu'il est nécessaire que chaque citoyenne et chaque citoyen comprennent un petit peu d'informatique pour travailler et pour vivre libre dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, à ce moment-là, il est nécessaire que et l'enseignement général, et l'enseignement technologique, et l'enseignement professionnel, et l'école primaire, et le collège, et le lycée, et les universités, et les licences, et les masters, et les doctorats, et que toutes les formations comportent un petit peu d'informatique. Et alors, bien sûr, on fait pas la même informatique à l'école maternelle et en master, mais il faut comprendre que l'informatique aujourd'hui n'est plus un savoir optionnel comme on peut le qualifier d'autres savoirs professionnels ou d'autres savoirs spécifiques qui sont utiles à certaines professions. Mais c'est devenu un savoir qui est utile à la fois dans toutes les professions et également pour vivre dans le monde dans lequel nous sommes.
Savoir comment fonctionne une machine, un serveur, connaître le langage binaire, connaître la logique des algorithmes. De quel savoir vous parlez, Gilles Lehoecq ?
Alors, quand on enseigne à un niveau comme le niveau du lycée ou le niveau du collège, il est important d'enseigner un petit peu de tout. C'est-à-dire, on a trop, par le passé, imaginé qu'on pouvait limiter à un enseignement de l'informatique, par exemple, à un enseignement de la programmation. Alors, il est important d'apprendre à programmer quand on enseigne l'informatique, quand on apprend l'informatique. Mais, bien entendu, ça n'est pas suffisant. On a aussi, pendant longtemps, pensé qu'il suffisait de comprendre quels étaient les algorithmes fondamentaux. Et que si on comprenait la notion d'algorithme, on avait compris l'informatique. Aujourd'hui, il y a une tendance un peu inverse qui consiste à dire ce qui est important, c'est de comprendre ce que sont les données, de comprendre vraiment la notion d'information. Et puis, il y a une quatrième idée qui est que enseigner l'informatique, c'est enseigner comment fonctionnent des machines, des ordinateurs, des réseaux, des serveurs, vous les avez cités. Et la réponse à cette interrogation, elle est, il faut vraiment tout enseigner. Alors, tout enseigner, ça veut dire quoi ? Ça veut dire avoir un équilibre dans les programmes au lycée, mais également dans le programme du CAPES et dans les programmes de l'école primaire, par exemple, entre les quatre grands concepts qui structurent l'informatique, qui sont les concepts d'algorithme, de langage, d'information et de machine qu'on a évoqués, mais sans avoir une tendance à tirer la couverture vers l'un de ces concepts. Et malheureusement, c'est souvent ce qui se passe, parce que quand on fait enseigner l'informatique par des profs de maths, très naturellement, ils se saisissent de la notion d'algorithme. Quand on l'a fait enseigner par des professeurs de technologie, assez naturellement, ils se saisissent de la notion de machine. Quand on l'a fait enseigner par des professeurs documentalistes, par exemple, ils se saisissent de la notion d'information. Mais si vous amputez la discipline comme ça d'un de ces concepts ou de deux de ces concepts ou de trois de ces concepts, eh bien vous avez un enseignement trop spécialisé qui ne correspond pas aux besoins des citoyennes et des citoyens aujourd'hui. Il y a également une organisation temporelle de cet enseignement. Comme je vous le disais, on n'enseigne pas la même chose à l'école et au collège et au lycée. Et ici, ça fait longtemps qu'il y a des propositions qui sont faites et qui sont expérimentées dans d'autres pays, en Suisse, en Allemagne, enfin particulièrement en Bavière, aux Pays-Bas, en Tunisie, aux États-Unis, en Chine, en Corée, tous ces pays qui enseignent l'informatique. Donc, il y a en gros, trois temps, avec le temps médian, qui est le temps du collège, où l'essentiel des acquisitions, c'est l'apprentissage de la programmation. Le collège, c'est le bon moment pour apprendre à programmer. Il y a un enseignement qui vient avant, qui est un enseignement d'ouverture vers les concepts. Par exemple, on peut apprendre à chiffrer et déchiffrer un message dès l'école primaire, simplement en décalant les lettres de l'alphabet, les A par des B, les B par des C, etc. C'est la première méthode de chiffrement, ça on peut le faire dès l'école. Et puis après, il y a un enseignement au lycée qui est plus centré sur des connaissances scientifiques, qui est plus centré sur les quatre concepts que j'ai cités, par exemple, on peut vraiment comprendre la nature d'un langage de programmation au lycée. Ça, c'est pas quelque chose qu'on peut comprendre au collège ou à l'école. Et enfin, pour conclure, parce que ma réponse est un petit peu longue, je vous prie de m'en excuser.
Et surtout, on va faire tourner la parole.
Il y a un équilibre à trouver aussi entre la dimension scientifique et la dimension technique de l'informatique. L'informatique, ça n'est pas qu'une science, ça n'est pas qu'une technique. C'est une science et une technique qui sont particulièrement articulées l'une avec l'autre. Et si on enseigne que l'aspect scientifique ou que l'aspect technique, à nouveau, on ampute la discipline et on arrive à un enseignement de mauvaise qualité.
Et puis, vous avez parlé de l'information, il y a tout cet aspect, comprendre les flux d'information, ce qu'on appelle la littératie, mais je ne sais pas si on est encore vraiment dans l'informatique.
Tout à fait.
Je vais demander à Bruno de Vauchel de répondre sur vos propos, parce que vous lui avez tendu une perche. Ça peut être une discipline, ça peut être aussi une partie de l'enseignement dans plusieurs disciplines. Ça peut être fait un petit peu en maths, un petit peu au CDI avec le professeur documentaliste, un petit peu en technologie. C'est plutôt comme ça que vous voyez les choses, Bruno de Vauchel ?
Pas vraiment. Pas exactement. En fait, je vais faire amende honorable auprès de Gilles Dewec et de Gérard Berry suite à une discussion qu'on a eue il y a quelques années en expliquant qu'effectivement, on a constaté au cours des 40 dernières années que, et c'est vrai pour l'informatique comme pour le reste, hein, c'est que lorsqu'il n'y a pas quelque chose de clairement désigné dans le système français, de clairement balisé, eh bien, ça se disparaît. On a vu avec l'informatique, on va le voir, je pense aussi avec l'enseignement des la littératie dont vous parliez à l'instant, et donc il était indispensable que en lycée en particulier et à tous les élèves, et ça je suis tout à fait sensible au fait qu'en seconde ce soit tous les élèves qui soient portés, qu'il y ait cette connaissance de l'informatique. Je renvoie aussi au fait que ce serait il faut se méfier en collège et en primaire d'une approche effectivement qui ne serait pas suffisamment finalisé, mais qui serait trop disciplinaire. Parce que ça rajouterait à nouveau, et à ce moment-là, on va voir arriver d'autres personnes qui vont demander aussi à ce que, est-ce qu'on peut ne pas connaître le droit, est-ce qu'on peut ne pas connaître l'information communication, comme le suggérait jadis un chercheur en sciences de l'information et de la communication. Donc, méfions-nous de... Ceci dit, l'introduction, et je regardais en préparant cette émission moi aussi, les nouveaux programmes de cycle 2, cycle 3, aujourd'hui, c'est explicite.
Donc on parle de l'école élémentaire, dans les programmes. Cycle 2, cycle
à l'école
3.
Élémentaire aussi. En cycle 2, cycle 3, il y a des choses à l'école élémentaire qui indiquent, on le voit en cycle 3, avec le développement de connaissances sur, par exemple, la notion d'algorithme, à travers effectivement des choses simples, hein, des choses qui ne sont pas compliquées, Gilles l'expliquait tout à l'heure, et effectivement, mais la question va se poser, en particulier dans le primaire, comme d'ailleurs en collège, j'ajouterai une notion à ce que disait Gilles Dewec tout à l'heure, c'est, effectivement, il faut que les enseignants aussi soient formés, et là, les inspects, les SP, futurs inspects, auront un rôle essentiel, non pas seulement pour former des gens à préparer le CAPES informatique éventuellement, mais aussi tous les enseignants.
Les quand enseignants du premier degré.
Du premier degré, par exemple. Mais aussi ouvrir, parce qu'on a parlé de l'informatique comme science, on a parlé de l'informatique comme technique, il faut parler aussi de l'informatique comme usage. Et il faut associer les trois. Le risque serait, et on avait des débats jadis sur le B2I, par exemple, en disant que ce n'était pas de l'informatique. On peut le comprendre, même s'il a été rénové, s'il a été amélioré.
Le B2I, vous êtes obligé de préciser, Bruno.
Brevet informatique et Internet, créé en 2000, et qui avait pour but d'essayer de faire travailler ces fameuses compétences d'usage. Mais il était probablement nettement insuffisant. Et il a démontré, d'ailleurs, l'impossibilité dans l'enseignement de demander à tous les enseignants de s'en emparer, parce qu'en fait personne ne s'en emparait, ou un enseignant. Et à ce moment-là, on tombait dans la dérive qu'évoquait Gilles Dewec tout à l'heure, qui est celui qui enseigne, l'enseigne avec son prisme. Et c'est là qu'on va voir qu'il y a un vrai problème double. Hein. Il y a former effectivement des gens à la compétence dans la discipline, et puis former l'ensemble des enseignants à pouvoir aider et accompagner les jeunes dans leurs actes de tous les jours. Et ces jeunes, ils partent de l'usage, eux. Et donc, il faut que les enseignants puissent les faire sortir de la simple usage pour aller effectivement vers la technique, vers l'informatique. Et c'est tout un cheminement qui doit amener logiquement les élèves en seconde à bien arriver prêt à cette discipline et ne pas la découvrir comme un objet scolaire étrange qui viendrait s'ajouter aux autres.
Alors, l'objet scolaire, c'est toute une question parce que qu'est-ce qu'un objet scolaire par rapport à une science qui peut être enseignée dans l'enseignement supérieur ? Ça, j'ai déjà un peu posé la question, je pense. On y reviendra. Édouard Geffray, il faudrait peut-être éclairer le public sur les objectifs, au fond, de l'enseignement de l'informatique. Est-ce que c'est parce qu'on manque d'informaticiens en France ? On manque d'étudiants qui posséderaient une culture informatique ? Est-ce que c'est lié à des enjeux démocratiques de connaître le fonctionnement des outils que nous utilisons tous les jours ? Est-ce lié aussi à des enjeux, et je crois que c'est lié à des enjeux de genre ? Puisque les études d'informatique sont suivies à une écrasante majorité par des garçons.
Écoutez, je crois que c'est un peu toutes les dimensions à la fois. C'est ce que disait tout à l'heure Gilles Dewec. Il y a un enjeu aujourd'hui, c'est que tout citoyen doit pouvoir, notamment tout jeune en construction, tout citoyen en construction, doit pouvoir disposer d'un bagage minimal en matière informatique et numérique. Parce que notre univers est devenu un univers, parfois on dit digital, il faut pouvoir se positionner en termes d'outils, en termes d'usage, en termes de valeurs. Comment est-ce que finalement on construit des citoyens libres et éclairés dans cet univers-là ? Vous y êtes confrontés tous les jours avec l'accès à l'information. Mais il y a un autre enjeu en termes de données, il y a un enjeu en termes de compréhension des algorithmes. Pourquoi est-ce que quand je vais sur être confronté à telle ou telle offre de service, on va m'offrir telle ou telle prestation, etc. Il y a un enjeu de compréhension du monde. Ça, c'est le bagage commun. Et puis, par ailleurs, on a besoin de gens, et on aura besoin de gens, moins nombreux par construction, mais qui soient un peu plus spécialistes. Mais quand je dis un peu plus spécialistes, je ne dis pas qu'on va fabriquer que des développeurs, ce n'est pas l'enjeu. On aura demain, évidemment, on a toujours besoin, et on aura encore plus besoin de développeurs, de tout ce qui est programmation, ingénieur, etc. Mais on a besoin aussi, par exemple, aujourd'hui, de nouveaux métiers qu'on appelle les data analysts ou les data scientists, c'est-à-dire des gens qui vont aller, entre guillemets, extirper d'un flux de données de l'intelligence collective via des algorithmes, via d'autres dispositifs. France Stratégie, qui est donc un organisme qui est chargé un peu de se projeter à l'avenir, a sorti il y a quelques mois un rapport sur la filière numérique. Il identifie à l'intérieur 28 métiers d'avenir. Dedans, vous pensez évidemment, comme tout le monde, développeur, ingénieur études, etc. Mais vous trouvez des choses comme ergonome, directeur artistique, manager de projet, manager d'équipe, marketeur digital, chargé de clientèle. Pourquoi ? Parce qu'on voit bien que derrière tout ça, à chaque fois, il faut aujourd'hui avoir le bagage numérique pour pouvoir se projeter professionnellement dans une partie de l'univers économique qui est le nôtre aujourd'hui. Donc voilà, je crois vraiment que ça répond à ces deux enjeux, un enjeu véritablement de citoyenneté, de construction de l'individu, et puis un enjeu, j'allais dire, plus de compétences directement projetables dans l'univers économique pour ceux qui voudront approfondir, notamment avec l'enseignement de spécialité que le ministre a créé dans le cadre du nouveau bac.
Et sur la question du genre, mais tiens, puisque vous n'avez pas répondu, je vais poser la question à Gilles Dewec, parce que quand on va dans une école d'informatique, on ne voit que des garçons, enfin vraiment beaucoup plus, 90% d'étudiants par rapport aux étudiants.
Soyons clairs, nous sommes la pire des disciplines universitaires en matière d'équilibre des genres.
Comment vous l'expliquez ? Parce que dans l'histoire de l'informatique, il y a des figures féminines extrêmement marquantes.
Au départ de l'informatique...
Des inventions qui ont été faites par des femmes, etc.
Au départ de l'informatique, la communauté informatique était totalement paritaire, puisqu'il y avait deux personnes. Il y avait les deux premiers informaticiens de l'histoire, qui sont Babbage et Lovelace. Donc Charles Babbage était un homme et Ada Lovelace était une femme. Donc vous voyez que c'était exactement 50-50. Et puis, il y a eu, au cours de l'histoire, des moments où il y a eu, effectivement, des informaticiennes qui ont apporté des contributions majeures à l'histoire de l'informatique. Grace Hopper, par exemple, pour ne citer qu'elle. Grace Hopper, c'est l'inventeur du langage COBOL. Donc, l'inventeuse du langage COBOL. Donc, celle qui a inventé le langage COBOL, on va le dire comme ça. Aujourd'hui, on ne sait pas expliquer la raison pour laquelle il y a si peu de femmes qui s'orientent vers des études d'informatique. Et en revanche, on s'est un tout petit peu corrigé ce phénomène, et peut-être il est plus utile de le corriger que de l'expliquer. Il y a beaucoup d'explications, alors l'image du geek qui mange des pizzas froides, etc., qui serait pas très féminine, mais moi je crois qu'aucune de ces explications n'est vraiment très convaincante. En revanche, il y a un certain nombre de choses qui nous permettent de penser qu'il y a une remédiation possible. Alors, une des raisons qui nous permet de penser ça, c'est que si nous voyons que quand nous enseignons l'informatique à des élèves plus jeunes, nous voyons que les publics sont plus mixtes. Alors, ce que je vais vous dire n'est pas un succès, mais c'est un succès relatif. En première année d'université, il y a 10% des personnes qui choisissent l'informatique qui sont des femmes. Au lycée, depuis que nous avons la spécialité informatique et sciences du numérique en terminale, nous voyons qu'il y a 20% des personnes qui choisissent cette spécialité qui sont des femmes. Alors, je me réjouis pas qu'il y en ait 20%, je souhaiterais qu'il y en ait 40%, 50%, 60%, mais on s'aperçoit que plus on enseigne l'informatique tôt, moins la différence de genre est marquée. Et ça, alors on peut en penser ce qu'on veut, mais certains psychologues nous disent que ça s'explique par le fait que les stéréotypes de genre se développent avec l'âge. C'est-à-dire si les enfants sont moins genrés que les adolescents, qui sont eux-mêmes moins genrés que les adultes. Et donc, une possibilité de remédiation à cette question, c'est de commencer plus tôt. Une autre possibilité, c'est d'ouvrir des carrières d'enseignants et d'enseignantes aux élèves qui suivent des filières d'informatique à la fac. Parce que aujourd'hui, et alors là, je vais être très prudent dans ce que je dis, ici et maintenant, et sans que ce soit ni dans leur gène, ni nécessaire, ni essentiel, il y a, parmi les personnes qui souhaitent être enseignantes, il y a davantage de femmes que d'hommes. Et donc, nous nous disons que si nous avons la possibilité de dire aux étudiantes et aux étudiants, venez faire de l'informatique, il y a un débouché étudiant, il y a un débouché d'enseignant, pour être enseignante ou enseignant, à ce moment-là, nous aurons une possibilité d'avoir davantage de femmes dans les amphithéâtres d'informatique. Et alors, attention, je n'ai pas dit que le métier d'enseignante ou d'enseignants était par construction féminin. Il y a tout un tas de pays
dans lesquels... Vous avez pris suffisamment de précautions pour qu'on vous comprenne.
Il faut faire attention, mais sachant qu'aujourd'hui, et pour des raisons contingentes, c'est le cas, profitons-en pour essayer d'ouvrir un petit peu nos filières à davantage de femmes. Et peut-être certaines femmes viendront faire de l'informatique pour devenir enseignantes, et puis au cours de leurs études d'informatique, décideront de devenir ingénieurs ou autre chose. Et à l'inverse, des hommes qui voulaient être ingénieurs deviendront enseignants. Je crois qu'il faut pas du tout prédéterminer ce choix de carrière, mais il est vrai que la création d'un CAPES est pour nous un espoir de rééquilibrer les genres dans nos amphithéâtres.
Ça peut être une ambition pour l'informatique, Bruno de Vauchel, cet argument vous convainc-il? Après tout, un argument d'égalité, ça s'entend.
Oui, c'est un argument. Je pense que le problème est plus culturel, plus globalement culturel. Il se joue pour l'ensemble des métiers techniques et en particulier d'un certain type de métiers techniques. Regardons les écoles d'ingénieurs en général. Celles qui préparent plutôt à des dimensions techniques ont eu du mal. Regardez même Polytechnique. Enfin, il y a eu du mal à faire rentrer les jeunes femmes dans ces filières. On voit bien que par rapport à... moi, je mets ça plus globalement dans le problème de la visibilité de l'enseignement technique en général, parce que on a enfermé les gens dans des stéréotypes et il faut en sortir. Effectivement, l'idée de démarrer plus tôt, et la remarque que fait Gilles est juste sur les petits n'ont pas ces préoccupations-là, et en grandissant, il y a une sorte de genre rage qui se fabrique, et donc on se sépare là-dessus. Est-ce que les enseignants qui font l'orientation sont innocents là-dessus? Est-ce qu'il n'y a pas une image de la femme et de l'homme avec des prédestinations? Je pense qu'il y a ça. Et puis, il y a aussi autre chose qu'il faut aborder, c'est le milieu du travail. Moi, il me semble que le monde des métiers de l'informatique est mal connu, et donc du coup il n'attire pas, parce que si on ne donne qu'une certaine image des métiers de l'informatique, centrer la représentation. Or, il faut montrer que c'est une variété de métiers et qui sont pas tous, qui sont assez typés les uns les autres, qui peuvent être ouverts à tous. Il faut donc avoir ce souci culturel de dire que l'informatique, c'est des choses variées et que ça peut s'ouvrir à tous. Et que c'est la même chose que pour l'ensemble des techniques. Et on le voit petit à petit dans un certain nombre de métiers techniques où on voit arriver des femmes dans la construction des bâtiments, on voit arriver des femmes dans des travaux plus lourds en métallurgie et autres. Ce qui montre que, petit à petit, les choses sont en train de changer. Mais c'est lent. Alors, l'informatique, effectivement, a acquis un retard à cause d'une histoire récente. Mais je ne désespère pas du tout que ça change. Simplement, il faut effectivement aussi que, dans la mentalité à l'intérieur des classes même, autour de l'informatique, il y ait autre chose qui se développe. Et là, ça se joue aussi sur la façon dont on utilise au quotidien le numérique dans l'école, à travers les activités, qui ne sont pas seulement les activités informatiques, mais aussi les autres activités, où les jeunes filles sont tout à fait aussi compétentes d'observation directe en classe que les garçons.
Les élèves, d'ailleurs c'est neutre, élèves, en tout cas c'est mixte comme mot. Vous écoutez Être et Savoir, nous parlons d'une nouvelle discipline scolaire prévue pour bientôt. Le concours, ce sera en 2020, un CAPES d'informatique, de sciences informatiques et numériques. Le dernier grand CAPES créé, c'était il y a 30 ans, le CAPES de documentaliste, même si entre temps il y a eu des nouveaux concours en langue, mais des langues plutôt rares. Comprendre le monde qui nous entoure passe par une certaine culture informatique. Donc, ce serait le rôle de l'école. Ça m'inspire une question, Édouard Geffray, vous qui avez travaillé à la CNIL, et maintenant vous êtes au ministère de l'Éducation nationale. Parcoursup, c'est assez compliqué. Et c'est finalement une confrontation à un univers d'informatique. Alors, les algorithmes, ils ne s'écrivent pas tout seuls, il y a des gens derrière. Mais tout de même, pour comprendre comment Parcoursup fonctionne, on voit que le meilleur journaliste qui s'en est occupé, c'est un ancien étudiant en informatique, Guillaume Ouattara. Nous l'avons déjà invité dans cette émission. parce que on manque de culture informatique. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une question aussi pour l'éducation nationale. Qu'en est-il aujourd'hui de ces élèves de terminale confrontés à des plateformes qui sont tout de même complexes à utiliser et à comprendre?
Alors, il y a deux choses différentes. Il y a à utiliser et puis à comprendre entre guillemets, le sous-jacent. À utiliser, je suis pas absolument convaincu que ce soit pour des jeunes d'aujourd'hui difficile. Ce qui peut être difficile, c'est de faire des choix, parce qu'évidemment, c'est un âge où, quand on exprime des vœux, etc., c'est pas forcément simple. Comprendre les sous-jacents ensuite. D'abord, moi, je vais pas partir du tout des gens qui minorent la capacité des jeunes actuels à comprendre tout ça. Ils sont nés avec, contrairement au moins à moi, peut-être à quelques-uns autour de cette table. Ils sont nés avec, ils ont l'habitude d'être dans cet univers-là. Donc je suis pas sûr qu'ils aient du mal à le comprendre. En revanche, ils sont beaucoup plus attentifs à la façon dont ça se passe, à déchiffrer entre guillemets un peu les clés, à comprendre les sous-jacents. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un certain nombre d'informations qui leur sont données, par rapport au fonctionnement de la plateforme. Donc voilà, je crois que c'est à peu près comme ça que les choses se conjuguent.
Concernant la culture informatique, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une certaine technophilie dans la société. On est content pour... les sondages montrent que l'enseignement de l'informatique est plutôt plébiscité. Alors, les sondages, ça vaut ce que ça vaut, mais il y a aussi une forte technophobie. Des parents qui veulent que leurs enfants évitent les écrans. N'avez-vous pas peur, ne craignez-vous pas, Gilles Dewec, que cet enseignement obligatoire de l'informatique renforce cette crainte de voir des élèves qui sont à l'extérieur aussi des enfants très très confrontés aux écrans, finalement baignés dans un monde trop informatique, trop numérique?
Je crois qu'il faudrait essayer d'avoir cette conversation sans employer le mot « écran ».
L'écran fait écran.
Parce que, et certes, les ordinateurs, les téléphones, les tablettes ont des écrans, mais la question n'est pas de savoir si les enfants passent trop de temps à utiliser un ordinateur ou pas assez de temps à utiliser un ordinateur, mais vraiment ce qu'ils font avec un ordinateur. Il y a un enseignant britannique qui raconte cette anecdote qui est un peu une illustration du fait que moins on connaît un sujet, plus on se sent confiant pour en parler, de parents d'élèves qui disaient à l'enseignant d'informatique, qui lui disait que leur enfant, qui s'appelle Johnny dans l'histoire, je ne sais pas si c'est son vrai nom ou si on a changé le prénom, il leur disait Johnny passe ses jours et ses nuits sur son ordinateur, donc forcément il n'aura aucune difficulté avec l'examen d'informatique au baccalauréat anglais qui s'appelait à l'époque le A-Level. Et bien entendu, c'est pas parce qu'on passe ses nuits à faire des jeux vidéo ou à chatter avec ses amis, ce qui est une activité tout à fait respectable, que nécessairement on progresse en informatique et que nécessairement on va avoir une bonne note à son examen. Donc avant de nous poser la question de savoir combien de temps les enfants passent devant un écran, d'ailleurs on pourrait se poser la question combien de temps ils passent à respirer, combien de temps ils passent à boire, combien de temps ils passent à marcher.
Ce n'est pas la même chose.
Voilà. Il faut se demander qu'est-ce qu'ils font. Et alors, qu'est-ce qu'ils font? Peut-être, il y a certains enfants qui passent trop de temps devant des jeux vidéo et il faut les contrôler cela. Mais on peut pas du tout mettre sur le même plan un enfant qui apprend à programmer, un enfant qui utilise Wikipédia pour préparer un exposé et un enfant qui chatte avec ses amis, un enfant qui joue à un jeu. Donc, il est vraiment important de séparer ces activités et de se dire, voilà, qu'est-ce que les enfants font? Et je crois qu'aujourd'hui, il est difficile de dire que les enfants passent trop de temps à apprendre à programmer, passent trop de temps à développer leur culture informatique.
Et toi,
ouais, juste un mot, je crois que les gens qui sont technophobes ont peur que leurs enfants subissent la technologie. Et l'enjeu de la formation au numérique, c'est de faire en sorte qu'ils la maîtrisent. Je n'irai pas plus loin, mais je pense que c'est absolument fondamental.
Oui, tout à fait. Tout à fait.
Bruno de Vauchel, mal comprendre le fonctionnement à la fois des ordinateurs, mais aussi des réseaux, des algorithmes, n'est-ce pas à se préparer à être un acteur passif du monde dans lequel nous vivons, qui est largement, sur lequel l'information circule largement sur des écrans, puisque c'est le point d'arrivée, hein, tout de même.
Alors, avant de revenir aux écrans, juste, je vais faire une citation d'un philosophe décédé aujourd'hui, mais qui remonte à 1981. Et il écrit « Ce n'est pas en refusant de faire de l'informatique en classe que l'on préservera les élèves. Il faut au contraire leur apprendre ce que c'est, comment on s'en sert, ce qui est possible avec ces appareils, démonter à la fois l'appareil lui-même et la société dans laquelle il se développe, et montrer le réseau de toute l'informatique pour apprendre à l'élève à se méfier et à critiquer cette évolution. C'est le seul moyen de limiter le contrôle social par l'informatique. Ce qui est en train de se produire actuellement, et la question des écrans montre bien qu'un certain nombre de personnes n'ont pas mesuré l'enjeu qu'il y a pour des enfants tout petits et des plus grands à laisser dériver certaines utilisations. Et il est fort probable que, c'est ce qu'écrit Margarida Romero dans un article qu'elle a publié il n'y a pas très longtemps sur l'intelligence artificielle, il est très probable que si nous n'apprenons pas très tôt à des jeunes que derrière ce qu'ils voient dans ces machines, mais parfois dans des appareils qui n'ont pas d'écran, des objets connectés par exemple, derrière ce qu'ils voient, il y a de l'intention, il y a de l'humain. Et on est bien obligé, à un moment ou à un autre, d'en passer par l'utilisation de ces machines, mais évidemment, il ne s'agit pas de mettre des élèves des journées entières devant des écrans, que ce soit à l'école maternelle, en primaire, on préconise en gros une demi-heure maximum par jour pour des élèves de cycle 2, hein, au grand maximum, en disant c'est pas la peine d'en faire plus. Et puis, il y a plein d'autres activités qui peuvent se faire tout à fait aussi sans utiliser directement l'ordinateur, mais qui peuvent aussi compléter le travail. Le travail de conception d'algorithmes, ça suppose d'abord une réflexion.
Et pas forcément une machine. Alors il y a toute une culture de l'informatique qui s'est construite un peu contre l'école. L'idée que on apprend l'informatique par soi-même, c'est la vision qui est par exemple promue par l'école 42, qui est une école d'informatique très célèbre, qui sélectionne les élèves en les mettant en autonomie, voilà, sur des projets. Une philosophie reprise par d'autres établissements, je pense à Simplon, c'est pas exactement la même chose. Et ils disent, bah voilà, nous on arrive à faire d'étudiants, de décrocheurs, de gens complètement ascolaires, de très très bons informaticiens, et ça c'est parce qu'on n'est pas scolaire. Et ça pose la question, donc je repose cette question, la discipline, parce que quand on scolarise un objet, on prend quand même des risques aussi d'en détourner certains, tous ceux qui n'ont pas l'esprit qu'on dit scolaire. Gilles Lehoecq.
Alors, la méthode pédagogique qui est employée à 42, c'est-à-dire qui consiste à mettre les élèves en autonomie, elle n'a pas été inventée par l'école 42. C'est une méthode pédagogique qui s'appelle l'enseignement par projet, qui a été inventée au 19e siècle par un philosophe qui s'appelle John Dewey, qui a ensuite été repris en France par Célestin Freinet, et qui est utilisée dans l'enseignement de l'informatique depuis 40 ans à l'université. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous savez que pour apprendre quelque chose, il ne faut pas uniquement écouter un professeur parler. Par exemple, si vous voulez apprendre à jouer du basson, il ne faut pas juste écouter un professeur de basson ou vous expliquer comment faire. Il ne faut pas non plus uniquement l'écouter jouer lui-même du basson, mais à un moment, il faut vous-même souffler dans une anche. Sinon, ça peut pas marcher. Et donc, cette idée, c'est qu'il est nécessaire de mettre les élèves en activité, c'est-à-dire de leur faire faire des choses. Et quand on apprend l'informatique, il y a une grande partie du temps qu'on consacre à laisser les élèves faire eux-mêmes des projets.
Mais en musique, on apprend le solfège, et en informatique, il y a bien un langage.
Exactement, de la même manière qu'en musique, on ne peut pas juste donner un instrument, le mettre dans les mains d'un enfant et d'espérer qu'il va devenir Mozart tout de suite. Enfin, ça peut marcher avec une fois peut-être Mozart, mais en général, ça ne marche pas. Eh bien, à côté de cet enseignement par projet, il y a tout un tas de compléments qu'on est obligé de faire dans une pédagogie plus classique, où on peut expliquer des choses à un petit groupe d'élèves à la fois, où on peut leur donner des choses à lire, puisque cette démarche par projet, qui est en fait pas très loin de la démarche de recherche, de la démarche des chercheurs, les chercheurs ne créent jamais de connaissances à partir de rien, bien entendu. Une grande partie du travail des chercheurs, c'est de s'informer sur ce que font les autres chercheurs et de s'informer sur ce qu'ont fait les chercheurs du passé. Et donc c'est en ça que l'école 42, à mon sens, fait une toute petite erreur, c'est que après avoir pris une idée qui était relativement bonne, qui est la méthode d'enseignement par projet, ils l'ont poussée à un extrême complet, et on pourrait presque dire à une caricature, et je crois que ça montre aussi certaines de ses limites, parce que les élèves qui sortent de l'école 42, on sait très bien qu'ils ont énormément développé leur esprit d'initiative, etc., mais parfois, ils manquent de fondamentaux sur, par exemple, la connaissance des algorithmes, etc. À l'école, puisque c'est finalement ce qui nous intéresse, on n'est pas là pour parler de l'école 42, on est là pour parler de l'école de la République. Je crois qu'il est important que l'essentiel, mettons peut-être 2/3 ou 70% ou 80%, j'en sais rien, de l'enseignement soit un enseignement par projet. Et il est important, en revanche, de ne pas aller dans cette caricature qui consisterait à ne faire que de l'enseignement par projet.
Ça, c'est la vision de la société informatique, voilà, des informaticiens français. Est-ce que c'est la vision de l'éducation nationale ? Est-ce que l'enseignement de l'informatique aura sa pédagogie ? Est-ce que ce sera une pédagogie particulière qui sera promue, y compris du côté des formations délivrées dans les SP par le ministère ?
Alors, je vais en profiter du coup pour répondre sur la formation. Parce que depuis tout à l'heure, j'en ai beaucoup de choses. Et donc, je vais en profiter. Mais juste d'abord, un mot pour dire qu'effectivement, c'est un peu comme la comparaison que vous avez faite avec la musique. Le solfège et l'instrument. Il est évident que on n'apprend pas l'informatique comme on apprend les lettres, on n'apprend pas les lettres comme on apprend les maths, et qu'on n'apprend pas les maths comme on apprend, je sais pas quoi, une langue. Donc, oui, évidemment, quand on parle d'enseignement informatique et numérique, on renvoie à une pédagogie qui soit adaptée à ce que sont à la fois les usages et les outils dans cet univers-là. Juste sur la formation, un tout petit mot quand même, parce que c'est quand même pas complètement négligeable. Il y a deux sujets. Il y a comment est-ce qu'on forme les professeurs qui vont demain enseigner cette nouvelle discipline. Donc là-dessus, on est actuellement en train de former des professeurs qui étaient déjà habilités à porter l'enseignement informatique, mais donc dans des proportions bien moindres, comme vous l'avez compris. Ils seront formés dans le cadre d'un diplôme universitaire. C'est-à-dire qu'en formation continue, on va leur délivrer un diplôme universitaire qui leur permettra, j'allais dire, d'approfondir leur niveau de compétence pour tenir, entre guillemets, un niveau d'exigence dans l'enseignement de spécialité qui soit un niveau élevé. Et puis par ailleurs, on va donc recruter des professeurs en CAPES numérique qui derrière vont également suivre une formation initiale adaptée. Troisième point, je réagis à ce que disait notre interlocuteur tout à l'heure, sur le fait qu'il faille former tous les professeurs, dans le fond, aux usages et aux outils. Il se trouve qu'on est en train, là, actuellement, de réviser assez substantiellement la formation initiale de tous les professeurs. On a défini ce qu'on appelle un référentiel de formation, commun à l'ensemble des masters qui sont ce qu'on appelle les masters MEF, c'est-à-dire les masters qui forment, en fait, les enseignants, une bonne partie d'enseignants. Et dans ce référentiel de formation, vous pourrez le lire dans quelques semaines quand il sera publié, vous verrez que, de manière extrêmement, j'allais dire, forte, on insiste sur la dimension outils, usages, ressources. Pas seulement pour savoir, mais pour savoir transmettre et pour savoir, une fois encore, aider des jeunes à se construire dans cet univers-là.
Et s'inscrit-on dans une logique de pédagogie, de projet, comme le prônent les informaticiens français ?
Ben, il y aura forcément une dimension pédagogie de projet dans l'ensemble, mais comme l'a dit très bien Gilles Lowek, si elle était exclusive, ce serait un échec.
Et dernière question, subsidiaire, je ne sais pas si vous avez lu le dernier essai du sociologue Antonio Casilli, mais c'est extrêmement intéressant sur la matérialité du monde numérique. Ce sont à la fois des ordinateurs, des téléphones, c'est très physique, des serveurs, c'est très physique, et puis aussi des gens, des petites mains de l'informatique. Ça pose quand même une vraie question sur ce que représente l'informatique et le numérique aujourd'hui. On parle de débouchés d'emploi, mais finalement, ce qu'on voit, c'est que certains métiers, les métiers d'exécution, aujourd'hui, ce sont les hommes qui sont dirigés un petit peu par des programmes, des machines à qui on fixe des objectifs comme ça, programmés. Est-ce que la question de l'enseignement de l'informatique, c'est pas aussi reprendre une forme de pouvoir sur ce que pourrait devenir un monde plus informatisé, plus numérisé ? Gilles Dewec.
Oui, bien entendu, Édouard Geffray l'a déjà dit. Il y a deux manières d'être avec, de manière d'être au monde avec des objets informatiques autour de soi. On peut en être des utilisateurs et on peut en être des concepteurs. Et quand on dit des concepteurs, ça veut, il n'y a pas que les ingénieurs de chez Google qui sont concepteurs du monde numérique. À partir du moment où l'un de nous écrit une page web, il commence à contribuer à la création de ce monde. Et donc, ce qui est important, c'est que les enfants se préparent non pas à être, j'allais dire des victimes, mais disons des utilisateurs d'outils, d'objets qui auraient été fabriqués par d'autres et selon des critères qui correspondent à ce que ces autres personnes voulaient, mais que chacun devienne à sa manière créateur, créatrice et créateur dans ce monde où nous coexistons avec des objets informatiques.
Mais la question, c'est pas seulement la question de la place pour soi-même, c'est une question morale.
Il y a coexistence avec des objets informatiques, une question qui est celle de la place du taylorisme. Est-ce que le taylorisme recule ou est-ce que le taylorisme se développe avec les objets informatiques? Et alors, vous, les exemples que vous avez cités, par exemple, tous ces gens qu'on appelle des petites mains qui entraînent des algorithmes d'apprentissage, ou les gens qui vérifient sur les réseaux que, par exemple, sur un réseau de microblogging, par exemple, comme Twitter, qui vérifient que certains messages ne sont pas offensants quand des messages ont été signalés. Eh bien oui, effectivement, il y a ici une forme de nouveau taylorisme. Cela dit, il ne faut pas perdre de vue le fait que ça, c'est quand même un phénomène relativement marginal par rapport à un phénomène qui est beaucoup plus massif, qui est le fait que l'informatisation des entreprises et l'informatisation surtout des usines, mais aujourd'hui aussi des services, fait disparaître énormément d'autres postes de petites mains, c'est-à-dire de postes de gens qui sont à la chaîne, c'est-à-dire des gens qui font un travail posté selon l'organisation du tayloriste du travail. Donc ça, il y a bien entendu, il faut avoir une réflexion pour éviter que se crée un nouveau taylorisme, mais il faut pas perdre de vue aussi que l'informatique a été le principal facteur qui nous a permis de sortir de ce monde horrible dans lequel nous avons vécu au 19e siècle et au 20e siècle, qui était le taylorisme.
Merci beaucoup, Gilles De Weck. Je rappelle que vous êtes également philosophe et je vous invite donc à lire Antonio Casilli. Votre dernier livre à vous, c'est Vivre, aimer, voter en ligne et autres chroniques numériques aux éditions du Pommier. Le dernier ouvrage de Bruno Duvauchel, Éduquer avec le numérique. Édouard Geoffrey, donc vous préparez ce nouveau CAPES qui s'appellera
Informatique numérique.
Merci beaucoup à tous et merci à Gérard Berry d'avoir été au téléphone avec nous. On passe à la dernière rubrique de l'émission dans un instant. Not really sure how to feel about it. Something in the way you move makes me feel like I can't live without you. It takes me all the way. I want you to stay. I want you to stay. Round and around and around and around we go. Par Cat Power, c'est une magnifique chanson interprétée au départ par Rihanna. On passe à la leçon de choses de Sophie Bobert avec Johanna Vasconcelos, plasticienne et karatéka. Oui, vous allez l'entendre. On peut voir son travail en ce moment au Bon Marché pour les Parisiens. Une enfance donc entre la France et le Portugal.
Mes parents, ils étaient mai 68. Bon, moi, je suis née en 71, ici à Paris. Et en fait, j'ai resté jusqu'à l'âge de 3 ans. Ils étaient ici, ils ont fait partie de toute la démarche de la Révolution. Ils sont révolutionnaires encore aujourd'hui, mais ils ont fait un grand travail autour des Portugais, de la communauté portugaise ici. Ils ont beaucoup bataillé pour la fin du système de Salazar et pour une dictature qui n'était pas du tout intéressante pour un pays. Et c'est vrai qu'ils ont fait partie de sa démarche quand ils sont retournés au Portugal. Ils ont continué. J'ai grandi dans cet esprit de militant et c'est très intéressant parce que la liberté qu'ils m'ont donnée d'être qui je voulais, d'essayer des choses, d'aller dans l'école des arts, ils n'ont jamais empêché de grandir à un niveau personnel.
C'était des intellectuels en fait.
Oui, en fait, oui. J'ai grandi parmi des intellectuels, des peintres, des écrivains, des musiciens.
Étiez-vous vous-même une enfant joyeuse, baroque, conquérante? On qualifie souvent vos œuvres de joyeuses et baroques et conquérantes.
Oui, moi en fait, j'étais une fille joyeuse. J'adorais faire le tricot, le crochet, de faire des crafts. Je faisais du macramé. J'étais tout le temps en train de faire des petites choses à la main. Après, dès l'âge de 8 ans, je suis rentrée au karaté. Ça veut dire que je suis devenue une guerrière très jeune. J'ai pendant plus de 20 ans fait le karaté. Je le fais encore aujourd'hui.
C'est vous-même qui l'aviez demandé à vos parents ou c'était une mode à l'époque? Parce que vous étiez donc retournée vivre au Portugal.
Oui, je suis retournée à l'âge de 4 ans. Et en fait, plus tard, à l'âge de 8 ans, il y a eu des cours de karaté dans mon quartier. En fait, j'allais avec mes copains et je suis restée plus de 20 ans. Après, plus tard, j'ai étudié aussi, j'ai pris le lycée d'art qui s'appelle Antonio Roy. C'est une école qui existe à Lisbonne, mais elle est très loin, elle est dans un quartier très éloigné d'où j'habite. Et il fallait vraiment me lever très tôt pour y arriver à l'époque. Et c'est vrai que ça a beaucoup marqué ma vie parce que j'ai sorti du quartier où je faisais le karaté, où j'allais dans des cours normales et j'ai choisi d'être artiste. À l'âge de 15 ans, j'ai décidé d'aller dans ce lycée qui était très loin et qu'il fallait me lever à 6 heures du matin pour y arriver à 8 heures.
Toute seule, à 16 ans.
Oui, et en fait, de changer, de faire le métro, les bus, de marcher à pied, il y avait pas mal de choses qu'il fallait faire pour y arriver à l'époque. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple, mais il fallait vraiment être responsable et vraiment de vouloir faire quelque chose de différent. Et pour moi, c'était très important à l'âge de 15 ans de sortir du quartier et de chercher des gens qui étaient comme moi, qui étaient une espèce de projet d'artiste.
En fait, vous étiez une jeune fille déjà très indépendante.
Oui, à 17 ans, j'étais à la ceinture noire. Et quand on est ceinture noire à 17 ans, on n'est pas comme les autres qui cherchent leur vie, on a déjà une responsabilité. Alors, le karaté a fait que j'ai grandi assez rapidement. Je faisais déjà de la haute compétition, je faisais déjà des choses internationales.
Et qu'est-ce qui vous plaisait dans le karaté? C'est pas du tout féminin. Quand on voit votre univers, Jean Vasconcelos, on dit « Oh, c'est féminin, c'est beau, c'est baroque ». Le karaté, on en a une image très, très, très droite, presque sévère.
Oui, le karaté est vraiment sévère, mais il est très poétique aussi. Dans la partie des katas, qui est une espèce de chorégraphie. Et il y a tout un côté spirituel et un côté militaire d'organisation qui est important. Ça veut dire que pour faire une grosse pièce comme celle-là, il faut qu'on ait organisé, il faut qu'on ait un projet, il faut qu'on travaille en équipe, il faut qu'on s'organise des équipes. Sinon, c'est impossible de finir un projet comme celui-là. Alors, tout ça, j'ai appris au karaté, la décision, la compétition, l'organisation, l'entraînement, tout ça, la rigidité du karaté est très présente dans mon œuvre. Dès le départ, j'ai toujours fait des choses que les femmes n'avaient pas vraiment le droit de faire. Moi, j'étais la première femme dans la première biennale qui était commissariée par des femmes à Venise. Après, j'étais la première femme à Versailles. Après, j'étais la première femme à Ajuda. Et maintenant, récemment, il y a quelques mois, au Guggenheim, j'étais la première femme et portugaise au Guggenheim, à exposer dans un Guggenheim. Ça veut dire que dans ma vie, à 47 ans, j'étais déjà beaucoup de fois la première femme.
Vous êtes une pionnière, en fait.
Mais je me dis, qu'est-ce qui s'est passé avant moi? C'est pas la question que je suis pionnière, c'est comment était le monde que d'autres femmes n'ont pas pu faire ce que j'ai fait, moi. Et le fait que je suis pionnière, c'est pas très agréable, parce que ça me montre que d'autres femmes n'ont pas pu arriver à faire ces choses-là. Et ça me montre qu'il faut encore faire beaucoup de choses, qu'il y a pas mal de choses encore que les femmes n'ont jamais fait.
C'était la leçon de choses de la plasticienne Johanna Vasconcelos. Vous pouvez réécouter ce numéro et tous nos précédents dossiers sur franceculture.fr. Vous pouvez vous abonner à notre podcast et nous suivre sur les réseaux sociaux. Je vous indique que demain, à 9h, la Fabrique de l'Histoire sera consacrée à la thématique éduquer en son temps. Comment les enjeux de chaque société pénètrent-ils l'institution scolaire et façonnent-ils les pédagogies? C'est toute la semaine dans la fabrique de l'histoire. Merci à l'équipe d'Être et Savoir, Somanina à la réalisation et à Avril Ventura qui m'aide à préparer toutes ces émissions. Merci à Jean-Frédéric à la prise de son à Paris et à Claire Vuillot à Lyon. Bonne soirée sur France Culture.